En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue les curieux. Bonjour ma petite reine.
Oh mais j'adore Thomas, bonjour, pourquoi ma petite reine?
Parce que dans un instant, on va parler vélo avec le Paris-Roubaix.
Ah. Ok mon petit roi, alors après l'effort,
oh, c'est bien, mon petit roi.
Le réconfort, on va déguster du fromage. Le général de Gaulle, vous vous souvenez?
Il n'était pas roi, il était président.
Non c'est vrai, mais il disait qu'il était difficile de gouverner un pays où il existait 365 variétés de fromage. Il serait étonné d'apprendre qu'il y en a désormais plus d'un millier. Dans un instant, vous saurez tout sur le fromage avec un fromager crémier meilleur ouvrier de France.
Mais tout de suite, on monte sur nos petites rênes pour aller de Paris à Roubaix.
La curiosité est un vilain défaut.
Au Vésinet, 183 coureurs prennent le départ du 40e Paris-Roubaix, l'une des plus importantes épreuves cyclistes de l'année.
RTL.
L'enfer du Nord, 257 km entre Compiègne et Roubaix, 51 km de secteur pavé. Les plus grands noms du cyclisme sont passés par là.
Hinault, de la vague, Hinault, ils nous gagnent.
La reine des classiques, détestée par Bernard Hinault, le Paris-Roubaix a été impulsé par deux filateurs roubaisiens qui ont imaginé la construction d'un vélodrome. C'était en 1896.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Après le Tour de France, c'est sûrement la course cycliste la plus connue au monde. On la surnomme la reine des classiques. Paris-Roubaix se déroule ce dimanche et avec nos confrères de l'équipe, on vous raconte l'histoire de cette course. Philippe Bouvet, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste du cyclisme à l'équipe et votre histoire avec Paris-Roubaix, elle est très personnelle. Vous avez travaillé par exemple pour l'organisation. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez chargé de quoi?
Non, je peux pas dire que j'ai travaillé pour l'organisation. Je suis d'abord journaliste à l'équipe. Ouais. À ce titre-là, j'ai eu la chance de suivre une trentaine de Paris-Roubaix. Alors on s'apprête à suivre une autre édition de Paris-Roubaix auquel l'équipe vient de consacrer un hors-série.
C'est pour ça que vous êtes là.
Voilà. Mais j'ai eu un rôle effectivement au cœur de la course parce que pendant une quinzaine d'années, j'ai eu le privilège de faire Radio Tour. Et Radio Tour, c'est le canal interne de la course qui renseigne l'ensemble de la caravane, c'est-à-dire aussi bien la presse, mais surtout les directeurs sportifs sur l'état d'incidents de course qui peuvent se produire. Et Dieu sait si dans Paris-Roubaix, il peut y avoir des crevaisons, des chutes, que sais-je encore. Et je peux vous dire que parfois, je suis arrivé au vélodrome de Roubaix, j'avais plus beaucoup de voix.
Vous avez aussi une histoire personnelle liée à votre papa qui était coureur cycliste, c'est ça? Mais pas que.
Oui, effectivement, mon père a couru Paris-Roubaix. Je dois dire que les pavés, c'était pas sa tasse de thé. Et puis parfois, il y a l'ironie du destin. C'est lui qui a un peu inventé le parcours que l'on connaît actuellement de Paris-Roubaix, un parcours hors norme. C'est quand même la classique, la course cycliste. Des excès en tout genre, mais c'est ce qui fait son charme et ça, c'est une vraie dramatique.
Pourquoi il a inventé? Parce qu'on a entendu dans la mise en onde d'André Facetta, notre réalisateur, elle est créée en 1896.
Voilà, soyons clairs, mon père n'a pas inventé Paris-Roubaix, il a inventé le nouveau parcours en 68.
Parce qu'il n'y avait plus de pavés, c'est ça?
Un mois avant la révolution des pavés, lui en a trouvé de nouveau parce que finalement, il commençait à faire sérieusement défaut dans le nord de la France. Les pavés aujourd'hui de Paris-Roubaix sont bien pires que ceux qui étaient empruntés par la course dans les années 50-60 pour une raison toute simple, c'est qu'à l'époque la course empruntait les routes de circulation normale, c'est-à-dire les routes nationales, les routes départementales. C'était donc des jolis petits pavés si j'ose dire, même si c'était difficile. Tandis que quand la goudronneuse a commencé à passer par là, les pavés ont commencé à manquer. Les secteurs décisifs aussi. Et au lendemain de l'édition 1967, Jacques Godet, le patron de l'équipe et donc des organisations Tour de France et Paris-Roubaix, a donné pour mission à mon père de lui dénicher des pavés. Alors ce n'était pas une mince affaire parce que où allait-il dénicher ces
Alors,
pavés?
Alors comment il a fait votre père Albert Roubaix?
Eh bien il a pris son bâton de pèlerin, il a sollicité quelques amis, vieux amis du peloton comme l'ancien champion du monde Jean Stablinski qui habitait près de Valenciennes et qui lui a fait découvrir des passages où personne n'aurait imaginé qu'une course cycliste puisse s'aventurer.
Et où il y avait des pavés.
Et où il y avait des pavés, mais des pavés, je répète, archaïques. Des pavés de chemin de desserte agricole, en quelque sorte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la vraie vedette de Paris-Roubaix, c'est son parcours.
Mais d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce parcours, est-ce que vous pouvez nous le décrire, en tout cas le parcours de ce dimanche?
Bon, il faut dire que Paris-Roubaix, d'abord, en premier lieu, c'est une classique de la plaine. Mais je dirais que le pavé, c'est le relief de la plaine. Cette expression, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est assez joli. C'est un monsieur qui s'appelle Alain Bernard, qui a été l'un des fondateurs d'une association très importante dans la sauvegarde de Paris-Roubaix, qui s'appelle tout simplement les Amis de Paris-Roubaix, et qui a vocation à quelque part entretenir le parcours. Car aujourd'hui, on répare le parcours de Paris-Roubaix pour qu'il reste malgré tout, qu'il évite malgré tout de tomber trop loin dans l'excès et qu'il reste accessible à une course cycliste, fût-elle aussi contraignante.
Et vous ne nous avez pas décrit le parcours ?
Ouais, dimanche, il y a quoi ?
Moi, je suis sur mon vélo, je vais partir.
Alors, 255 km,
à peu près,
dont 52 800 km, là, je vais être précis, de pavés. Voilà,
ah oui. Je pense c'est raisonnable, ça ?
Oui, c'est raisonnable. C'est
sauf
la bonne,
pour ceux qui font la course.
C'est, il faut à peu près, pour faire un bon Paris-Roubaix, à partir du moment où on entre sur les pavés, il faut qu'il y ait à peu près 1 km de pavé sur 3 km. Quoi. Voilà.
Alors, on ne peut pas raconter toute l'histoire. Je voudrais juste qu'on raconte une anecdote qui se passe dans l'entre-deux-guerres. Une anecdote amusante. On est en 1934. Il y a un vainqueur français qui s'appelle Roger Lapébie. Sauf qu'il est déclassé. Pourquoi il est déclassé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Oh, c'est pas le seul vainqueur de Paris-Roubaix. Il y a eu pas mal d'avatars aux arrivées de Paris-Roubaix. Lapébie, en fait, il avait... j'y étais pas, hein, je vous rassure tout de suite.
Bah non.
Il avait eu un incident mécanique, ce qui est quand même monnaie courante dans Paris-Roubaix, et il avait emprunté un vélo à un spectateur. Et c'était formellement interdit par le règlement.
Il avait gagné la course.
Quelques minutes plus tard, il a appris son déclassement, mais c'est pas la pire injustice de l'histoire de Paris-Roubaix.
On va en raconter quelques-unes. Tiens, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, on vous raconte comment en 1949, un Français fut déclassé au profit du frère de Fausto Coppi. À tout de suite sur RTL.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Paris-Roubaix raconte la journée de travail du mineur. Même souffrance, même angoisse.
Sur le vélo, chacun veut être le plus costaud.
RTL.
Quand le coureur débouche sur le vélodrome, le visage maculé de boue et de poussière, il évoque le retour à la surface du mineur après des heures de labeur souterrain. Mais comment s'y prend-on pour remporter Paris-Roubaix ?
Pour le bonheur du populo, sur le vélo.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Paris-Roubaix, c'est une course mythique, une légende du cyclisme à ne pas manquer ce dimanche sur RTL et à lire dans le hors-série que l'équipe publie en partenariat avec RTL. Philippe Bouvet, vous êtes spécialiste du cyclisme à l'équipe. Vous nous racontez cette course que l'on nomme l'Enfer du Nord. Mais il vient d'où ce surnom terrible ?
À l'Enfer du Nord, oui, ça remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale parce que le Nord particulièrement était dévasté et un journaliste de l'Auto, l'ancêtre de l'équipe, donc... Victor Breyer avait rendu visite dans les parages et il avait été impressionné par le paysage désolé qu'avait laissé la guerre. Et il a dit « c'est l'enfer ». Et donc ça s'est attaché finalement à cette course qu'emprunte beaucoup au vocabulaire de 14-18, quoi, parce qu'on dit la tranchée d'Arambert, par exemple, alors que ce n'est pas le vrai nom de ce passage mythique de Paris-Roubaix.
On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Pourquoi on appelle ça une classique parmi les courses ?
Parce que une classique, c'est comme dans la littérature finalement, c'est une épreuve qui fait référence. Elle fait référence par son palmarès d'abord. Les plus grands champions, pour asseoir leur prestige, doivent inscrire les grandes classiques à leur palmarès. Par leur histoire. Et Paris-Roubaix a une longue histoire. Et puis aussi par leur caractère, et Dieu sait si Paris-Roubaix a une caractère, il n'y a qu'une course comme celle-là dans l'année. C'est vraiment, véritablement un parcours hors norme. Et c'est ce qui fait que c'est un des cinq monuments des classiques, avec Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres et le Tour de Lombardie pour finir la saison.
Alors il y a plein d'anecdotes dans votre hors-série de l'équipe, certaines sous forme de quiz. Je suis sûr que vous avez révisé, Philippe Bouvet. Tiens, par exemple, on va parler de la victoire de Bernard Hinault en 1981.
Van Kelser va démarrer, il est très rapide, attention, il a été maillot vert dans le Tour de l'Avenir. Toujours Hinault, de Vlaminck. Maintenant à la Corse, c'est de Meyer, vainqueur en 1976. Moser se rapproche, Piper s'est fini, la mission est accomplie. À l'extérieur maintenant de Vlaminck, Hinault conserve la corde. De Vlaminck, dans la roue d'Hinault, devant Moser. De Meyer, Van Kelser en quatrième position. Maintenant c'est l'attaque du sprint, la dernière ligne droite. Hinault, toujours Hinault. Hinault devant de Vlaminck. De Vlaminck, Hinault, de Vlaminck, Hinault. Hinault gagne. 25 ans après Luzon-Bobet, victoire de Bernard Hinault.
Bernard Hinault, surnommé le blaireau, mais c'est un autre animal qui avait provoqué sa chute ce jour-là, qui avait d'ailleurs failli le priver de la victoire. Vous avez forcément la réponse. C'est un chat noir, un caniche avec un collier rouge ou un canard?
Ben non, c'est pas un chat noir, parce qu'il n'avait pas le chat noir, Bernard Hinault, dans cette édition de Paris-Roubaix. Finalement, il a surmonté toutes les embûches. C'était un petit caniche. Et effectivement, la légende rapporte qu'il avait un collier rouge. Mais je me souviens d'une photo de cette édition de Paris-Roubaix où on voit Bernard Hinault, après cet incident, passer derrière une haie de, à pied, derrière une haie de spectateurs absolument indifférents qui regardent la chaussée pavée et qui ne voient pas que Bernard Hinault passe dans son dos.
C'est drôle. Les stars de la course, ce sont les pavés.
Voilà, absolument.
Alors, une autre anecdote qu'on peut lire dans ce hors-série de l'équipe. En 1949, c'est un Français qui croit avoir gagné. Il s'appelle André Maé. Il franchit la ligne. Il reçoit un bouquet. Mais ensuite, il va être déclassé. Pourquoi ?
Oui, André Maé, que j'ai eu la chance de connaître, qui nous a quittés il y a quelques années, qui est resté à jamais marqué par cette péripétie. C'est une édition en 49 où les grands champions de l'époque, les Coppi, Van Steenbergen, se marquent un petit peu et sont trois seconds couteaux qui arrivent en premier au Vélodrome de Roubaix. Il y a donc le Français André Maé, Jésus Mujica et un Belge qui s'appelait Lennen. Et ils arrivent avec une assez courte avance sur le Vélodrome. Seulement, ils sont mal aiguillés par un policier à l'entrée du Vélodrome. Ils rentrent par une petite porte, par une porte dérobée du Vélodrome. Bref.
Et ensuite, il règle le sprint.
Il règle le sprint. André Maé gagne Paris-Roubaix. Il ne l'a absolument pas volé puisque les trois coureurs étaient échappés. Mais le peloton est réglé par le frère du grand champion italien Fausto Coppi, qui s'appelait Cersei Coppi et qui est mort en course d'ailleurs l'année suivante. Et la maison Bianchi, qui la célèbre marque de cycle italienne, a déposé réclamation parce qu'il y avait un dilemme absolu dans le règlement, c'est-à-dire que le règlement oblige le coureur à suivre absolument le parcours qui est consigné sur la feuille de route. Mais il dit aussi que les coureurs doivent se soumettre aux injonctions des forces de l'ordre. Donc les deux cas étaient un petit peu... c'était vraiment un cas de conscience.
Ça va se terminer comment, cette histoire ?
Et il s'est avéré, avec une reconstitution, que les trois échappés ont parcouru 220 mètres exactement de plus que le peloton. Mais néanmoins, la réclamation des Italiens a été considérée comme recevable et André Maé a été déclassé. Il en a conçu bien sûr beaucoup d'amertume, mais heureusement... La Fédération française a bougé, elle a rétabli dans ses droits André Maé, et c'est ce qui explique que Cersei Coppi et André Maé figurent au palmarès comme vainqueurs ex aequo. Et il y a donc un vainqueur de Paris-Roubaix en plus que le nombre d'éditions.
On entendait, et on va parler de la victoire de Hinault en 80, on y reviendra, il n'aimait pas cette course Bernard Hinault. Est-ce qu'il y a des grands champions, des très grands, je ne sais pas, les Anctil, etc., qui n'ont jamais gagné?
Oui, bien sûr, il y a des grands champions qui n'ont jamais pu accrocher Paris-Roubaix à leur palmarès. Bon, d'abord, il faut écarter de ce terrain les purs grimpeurs. C'est vrai qu'un Charlie Gaulle ou un Federico Bahamontès ne se risquaient pas dans ce genre de course. Mais Jacques Anquetil avait néanmoins relevé le défi. Il était en tête en 1958 et il l'aurait probablement emporté sans une crevaison survenue assez près de l'arrivée à Roubaix, au célèbre carrefour de l'Arbre. Et de là, Jacques Anquetil, qui était quelqu'un de très méticuleux, qui était un calculateur, a considéré que cette course était une loterie et qu'il n'y reviendrait plus jamais.
On va vous raconter la victoire d'Hinault et aussi l'une des victoires d'Eddy Merckx. Restez avec nous sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le coureur de tête, qui n'est autre que Felice Gimondi dans ce Paris-Roubaix, se trouve actuellement à 25 km de l'arrivée.
RTL.
L'enfer du Nord, ce sont bien sûr les pavés, mais aussi le froid, la pluie, la boue.
Jusqu'à 22h.
Dans l'œil triomphant, entre ici, en tête, au Vélodrome de Roubaix.
Les organisateurs, l'équipe et le Parisien Libéré ont de plus en plus de difficultés à préserver cette fameuse légende de l'enfer des pavés du Nord. Et chaque année, ils doivent découvrir de nouveaux chemins.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Felice Gimondi, 66, Rick Van Looy, 65, ce sont des coureurs et la légende de Paris-Roubaix qu'on vous raconte grâce à Philippe Bouvet, journaliste à l'équipe. L'équipe qui publie un hors-série sur ce Paris-Roubaix en partenariat avec RTL. L'obsession des coureurs, Philippe Bouvet, forcément, juste après la course, c'est la douche.
Oui, après l'effort, le réconfort. Alors ce mince filet d'eau, il ne faut pas arriver trop tard parce que j'imagine qu'il n'y a plus d'eau chaude. Mais je pense que
ça motive pour arriver en premier. Oui.
Vous publiez, pardon, je vous interromps, un portfolio dans ce hors-série de l'équipe. On est où ? Décrivez-nous les lieux.
Oui, c'est aux abords du Vélodrome. C'est assez vétuste hein, comme endroit. Mais je crois que même les coureurs professionnels sont très fiers de rejoindre... d'aller prendre la douche au Vélodrome de Roubaix. Aujourd'hui, ils ont tous des pullmans où ils ont la possibilité de se nettoyer, etc. Mais c'est un symbole, la douche de Roubaix. C'est une fierté, je crois, pour le coureur, même professionnel, d'avoir fini Paris-Roubaix.
Vous dites que ce sont des douches dans un Vélodrome, mais elles sont aussi dans une école communale de Roubaix.
C'est
une ancienne école. Ce Vélodrome, c'est une ancienne école.
De l'autre côté.
Et il y a des petites plaques dans ces douches qui sont vissées au mur, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut lire ?
Alors, depuis quelques années, les organisateurs et les gens de Roubaix ont eu la riche idée, finalement, de mettre le nom du vainqueur sur chaque emplacement de douche. Voilà.
Alors évidemment, il y a une petite plaque, j'imagine, avec Hino Bernard, vainqueur en 1981. C'est sa seule victoire dans Paris-Roubaix ?
Oui, absolument, c'est sa seule victoire. Mais quelle victoire, hein, devant les plus grands, de Vlaminck, Moser, etc.
Il faut dire que
Bernard Hino ne voulait pas venir à Paris-Roubaix. Non pas qu'il n'ait pas les aptitudes, il avait fait quatrième l'année précédente, mais il avait décrété, Bernard Hino est comme ça, que c'était une cochonnerie. Il l'avait dit, c'était son mot.
Trop dur.
Oui. Et d'ailleurs, il ne change pas d'avis après sa victoire. Qu'est-ce qu'il dit après sa victoire ?
Il dit quelque chose comme « c'est pas parce que je l'ai gagné que je vais l'aimer ». Mais cela dit, je crois qu'il est bien content aujourd'hui de l'avoir gagné quand même.
Sûrement, dans son palmarès, c'est une sacrée date. Il déclare exactement, il y a la citation dans le hors-série, « ça ne change rien, si on me disait demain que Paris-Roubaix n'est plus organisé, je n'en ferais pas une maladie ». Il était vraiment. En plus, on imagine Bernard Hinault avec son côté un peu ronchon, on va dire ça comme ça.
C'est du Bernard Hinault tout craché. Lui, il considérait qu'il était le meilleur, il n'avait pas tort. Il disait, moi, j'ai déjà prouvé que j'étais le plus fort. Je ne vais pas dire aux gens d'aller travailler plus, moi, dans les bureaux ou dans les usines. Laissez-moi en paix avec Paris-Roubaix. Mais il fonctionnait quand même au défi et il a relevé ce challenge-là.
Il y en a un qui aimait beaucoup le Paris-Roubaix, c'est Eddy Merckx. Il a gagné 3 fois et la dernière, c'était en 1973.
Merckx avait décidé de porter là sa première estocade et on ne pensait pas alors que de Vlaminck le suivait, roue dans roue, avec ce dossard numéro 1 désignant le vainqueur de l'an dernier, et que Godefroot et Rosiers naviguaient à près de 1 minute 30. Il restait en équilibre, comme l'on dit. On ne pensait pas que Merckx avait décidé de partir si tôt. Mais si, nous étions quand même à 45 km de l'arrivée. De Vlaminck n'en pouvait mais. Il était lâché dans la roue d'Eddy Merckx. Il ne pouvait suivre le train imposé par le champion belge. Et Merckx se retrouvait tout seul. C'était à 15h51. Et une heure plus tard, Merckx franchissait la ligne à Roubaix. C'est dire qu'il est resté pendant une heure tout seul en tête.
Eddy Merckx, qui connaissait bien les pièges de Paris-Roubaix, notamment la fameuse tranchée d'Arenberg dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Philippe Bouvet, ressemble à quoi ? Vous pouvez nous la décrire ?
Arenberg, c'est une perspective, c'est 2200 mètres d'une ligne droite dans la forêt. C'est un très bel endroit d'ailleurs. C'est assez frappant quand on y va en semaine, loin du bruit de la course. C'est un endroit très reposant. C'était le poumon des mineurs. C'est une très belle forêt, la forêt de Saint-Amand-les-Eaux. Et il y a là, d'ailleurs, des galeries de la mine d'Arenberg où a été tournée Germinal, qui passe sous les pavés d'Arenberg. C'est un très très bel endroit, mais quand les coureurs aperçoivent le passage à niveau là-bas au fond de la ligne droite, là, il y a du remue-ménage et de la tension.
Merci beaucoup. Merci Philippe Bouvet d'être venu partager votre passion de Paris-Roubaix. Il y a encore plein d'autres histoires à découvrir dans ce hors-série de l'équipe qui est publié donc en partenariat avec RTL.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.